Donc, nous entamons cet après-midi, cette avant-dernière demi-journée de ce colloque sur la représentation du vivant, dont le thème est « Pensée et identité ». Alors, je crois que cette demi-journée est à la fois dans le droit fil de celles qui ont précédé, dans la mesure où elle est placée sous le signe de la pluridisciplinarité, puisque cet après-midi, nous entendrons un sociologue, deux philosophes, une immunologiste pharmacienne, un agronome et encore quelques autres représentants de différentes disciplines, que également aussi cette demi-journée, comme l'ensemble du colloque, est placée sous le signe de la rencontre entre institutions, puisque j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui l'université de Lyon 3, Jean Moulin étant professeur d'histoire contemporaine dans cette université, et en dehors donc de ce qui place cette demi-journée dans la continuité des précédentes. On peut aussi peut-être remarquer d'ores et déjà quelques spécificités de cette demi-journée. La première, c'est qu'elle est quand même plutôt consacrée à une approche autour des enjeux de l'évolution des sciences et de l'évolution des représentations du vivant que donnent les sciences contemporaines, que du coup aussi, elle fait beaucoup plus de place aux interrogations autour des problèmes de l'éthique, autour en particulier d'un éventuel rejaillissement des questions autour de l'eugénique, de l'expérimentation, etc. Et que, aussi, ce qui peut déjà apparaître comme un point commun des différentes interventions de cet après-midi, c'est que toutes, finalement, posent la question des frontières. Et pour reprendre un sous-titre d'un ouvrage publié, édité par Alain Ehrenberg, qui est à ma droite, on pourrait aussi parler de troubles des frontières, puisque en lisant simplement les résumés des différentes interventions, on s'aperçoit que se pose de façon récurrente la question des frontières entre le biologique et le social, entre l'individuel et le collectif, et aussi de façon toute particulière entre l'homme et l'animal, et entre le vivant et le non-vivant, entre l'animal et la machine, puisqu'il y aura deux communications qui seront donc concentrées autour de ce problème de l'animal et de la notion de l'animal. Alors, tout ceci évoque, en particulier pour l'historien, le fait que même les sciences les plus contemporaines et les neurosciences ou les technologies les plus en pointe d'aujourd'hui posent des questions qui ne sont pas des questions spécifiques aux contemporains, mais qui font allusion à beaucoup de débats antérieurs. Tout ceci non pas pour dire que rien ne changerait jamais, mais simplement peut-être pour mieux mesurer que ces questions d'éthique ou ces questions sociales d'aujourd'hui sont aussi des questions qui ont un enracinement historique et un enracinement philosophique extrêmement durable. Donc, question des frontières et aussi trouble des frontières, mais peut-être qu'on peut aussi se poser la question de savoir si les frontières que nous établissons ne sont pas simplement le reflet de notre incapacité ou de notre difficulté à penser justement la complexité des choses et en particulier la complexité du vivant. Alors, avant de passer la parole à Alain Ehrenberg, une petite précision sur l'organisation de cette demi-journée. Contrairement à ce qui est annoncé dans le programme, Hubert Vincent n'interviendra pas en fin de journée, mais il interviendra en troisième position après l'intervention de Catherine et de Raphaël Larère. Et du coup, les deux communications sur le problème de l'animal seront regroupées. Et après quoi, donc, nous ferons une pause. Et avant de commencer, je voulais aussi dire quelques mots de bienvenue spécifique aux élèves des classes de terminale du lycée de Rumilly, qui vont donc ainsi s'initier à ce qu'est la recherche et ce que sont les colloques, et en particulier ce que sont aussi les rites de ces colloques. Donc bienvenue à eux au nom de tous ceux qui sont là depuis plus longtemps. Bien, donc sans attendre, je laisse la parole donc à Alain Ehrenberg, sociologue qui est très connu pour avoir écrit une trilogie qui pose justement la question des relations entre l'individu et la société, et aussi entre le biologique et le social, avec à la fois le culte de la performance, l'individu incertain, et la fatigue d'être soi, qui est justement une approche qui me paraît tout à fait synthétique des questions sur lesquelles nous tournons dans ce colloque. Et donc aujourd'hui, il nous présente ses réflexions autour du thème « Le cerveau, âme matérielle ?» Point d'interrogation. Voilà, je lui laisse la parole.
Merci Olivier. Je mettrai en exergue de cet exposé une phrase de Robert Musil que vous trouverez dans ses essais parus en 78 au Seuil. Il écrivait dans L'Allemand comme symptôme, un essai de 1923, « Le moindre fait intéressant le rapport entre le caractère et l'équilibre hormonal nous ouvre plus de perspectives sur l'âme qu'un système idéaliste à 5 étages. Alors, je dois préciser aujourd'hui aussi qu'il n'y a, je ne parle pas vraiment je parle pas de la question de la pensée ici. Sans doute est-il question d'identité, mais en tout cas pas de la question de la pensée. On peut dire que depuis 20 à 30 ans, des biologistes s'attachent à expliquer l'homme dans sa totalité. Cette tâche est la plupart du temps entreprise par la recherche de liens entre le cerveau et l'esprit, en gros au moyen d'innovations techniques, comme par exemple l'imagerie cérébrale qui a été évoquée ce matin, et de découvertes scientifiques, je pense à l'implication de circuits de cellules nerveuses ou d'aires cérébrales dans les fonctions mentales. Nombre d'entre eux croient que le noyau de l'humain réside dans l'esprit, et cela n'est pas d'ailleurs spécifique à ces biologistes. Je ne parle pas de la biologie, mais d'une certaine tendance en biologie. Donc ce n'est pas spécifique à ces biologistes, puisque c'est tout à fait conforme aux croyances individualistes communes, c'est-à-dire que nous croyons que le noyau de la personne, c'est l'esprit, il réside dans l'esprit, et non pas dans le foie, comme d'autres sociétés, ou dans le totem. Par ailleurs, il faut dire que le cerveau n'est plus simplement aujourd'hui un fait scientifique, c'est aujourd'hui un fait social. En quel sens est un fait social? C'est-à-dire que plein d'éléments du langage scientifique du cerveau sont intégrés dans la vie quotidienne. Je prends là simplement un exemple, j'ai la chance de l'actualité avec moi, c'est le Monde daté du vendredi, c'est le rapport Krigel sur la violence et la pornographie à la télévision. Vous pouvez lire la chose suivante, c'est que ces émissions sont capables d'influencer le cours normal de l'évolution du cerveau. Bien entendu, ils veulent dire le cours normal de l'évolution de la personne, de l'enfant. Donc, ce n'est pas simplement un fait scientifique. Alors, ce qui veut dire que nous sommes confrontés ici à un problème de rapport partie-tout. Pourquoi ? Parce que le cerveau est identifié au tout de la personne, il en est l'équivalent, je viens d'en donner un tout petit exemple. Et c'est évidemment là que les difficultés commencent, parce que la notion d'individu d'un point de vue biologique, ça veut dire la différence individuelle au sein d'une même espèce, et la notion d'individu au sens sociologique ou anthropologique, c'est-à-dire le sens attribué à cette différence individuelle, est perdu de vue. C'est pourquoi les rapports entre individuation biologique et individualisation sociale forment la trame de cet exposé, et la nécessité de maintenir une hiérarchie de niveau entre elles, la thèse qui est défendue ici. Alors, les disciplines qui composent les neurosciences représentent une des voies par lesquelles la psychiatrie définit scientifiquement des entités opératoires, c'est-à-dire qu'on peut les caractériser, on peut agir dessus. Et moi, je m'intéresse aux neurosciences psychiatriques ou appliquées à la psychiatrie, hein, qui ne sont pas du tout toutes les neurosciences. Alors aujourd'hui, l'un des enjeux théoriques est, du moins pour les plus audacieux des biologistes, l'explication de l'esprit sur une base purement naturaliste, et l'un des enjeux pratiques est le rapprochement, voire la fusion entre neurologie et psychiatrie qui avait amorcé leur séparation à partir de la fin du 19e siècle. Question. Les pathologies mentales remplissent-elles les conditions à la fois théoriques et surtout pratiques pour être appréhendées exclusivement comme des lésions dynamiques, pour employer les termes du neurologue Charcot? Or, Charcot est au bord de cette nouvelle façon de voir la vie psychique qu'est la psychanalyse, dont l'apport est d'avoir inventé un jeu de langage faisant de l'animal humain le sujet de son désir. Le sujet et non le maître, bien sûr. La neuropsychiatrie, d'après l'invention freudienne, a-t-elle les moyens conceptuels, méthodologiques et pratiques de tout ramener au cerveau? Bon, ici, je vais m'intéresser seulement à l'aspect conceptuel, mais il y a l'aspect des méthodes, il y a l'aspect de toute une série de pratiques cliniques que je ne peux pas examiner dans un tel laps de temps. Mais je veux garder à l'esprit les enjeux pratiques. Alors, je vais d'abord faire un coup de projecteur très rapide sur ce que pense pouvoir être et faire une biologie de l'esprit. Ensuite, je discuterai, et c'est évidemment le point principal, de l'emploi de deux thèmes récurrents dans la littérature scientifique, le thème du pont, comme pont cerveau-esprit, comme réponse à la complexité du cerveau, et les relations entre spécificité biologique d'une personne et spécificité de cette personne en tant que totalité. Alors, premier point, les spéculations, pour appeler ça, vers une biologie de l'esprit avec un point d'interrogation. Lors du colloque de Bonneval, qui était organisé par Henriet en 1960 sur l'inconscient, et que les quelques connaisseurs de l'histoire de la psychiatrie connaissent peut-être, un psychiatre fait un rapport sur conscience et inconscient dans la pensée neurobiologique, et il est frappé par le fait que cette pensée introduisait, je le cite, la notion de sujet dans le fonctionnement cérébral. Aujourd'hui, l'idée d'une neurobiologie du sujet s'est banalisée, les neurosciences apparaissant dans les plus importantes revues internationales comme l'avenir de la psychiatrie, parce qu'elles représentent un apport fondamental à la compréhension des troubles mentaux. L'objectif, c'est quoi ? Eh bien, c'est de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires avec, à plus long terme, l'espoir que l'on pourra agir sur le cerveau pour modifier plus généralement les états mentaux. Eric Kandel, qu'a évoqué ce matin Jean-Claude Dupont pour ses travaux sur la mémoire et qui a reçu en l'an 2000 le prix Nobel de médecine et de physiologie pour ses travaux sur la mémoire qu'on appelle procédurale, la mémoire à long terme, écrivait dans un article qui est dans l'American Journal of Psychiatry de 1999 que la plupart des biologistes sont convaincus que l'esprit sera la biologie du XXIe siècle, ce que le gène a été pour la biologie du XXe siècle. Bon, ça, c'est une phrase qui est très courante actuellement. Je pourrais citer autant Gérald Edelman, Jean-Pierre Changeux, etc., et puis plein d'articles aussi dans cette littérature. Encore un tout petit exemple, c'est l'argument d'un colloque sur la biologie de la conscience, qui s'appelait le sous-titre « Neurosciences, neuropsychiatrie et cognition », qui s'est tenu à Paris en avril 2002, sous la présidence d'honneur d'Edelman, souligne que, je cite, « les neurosciences sont la clé des processus d'apprentissage, des comportements sociaux, des dysfonctionnements neurologiques et mentaux. Plus que jamais, elles sont le socle de la psychologie, de la neurologie ou de la psychiatrie. » Donc, non seulement socle, disons, des pratiques cliniques diverses, mais aussi socle des comportements sociaux. Bon. Alors, je laisse de côté cette question, on pourra y revenir dans la discussion. Ce qu'on peut dire, c'est que nombre de neuroscientifiques laissent espérer à terme une explication complète de l'esprit par la biologie ou les représentations mentales. Et cela, malgré le fait qu'il y a non seulement, comme le souligne Kandel et trois de ses collègues dans un bilan des neurosciences du XXe siècle qui a été publié par la prestigieuse revue de neurobiologie qui s'appelle Cellule, non seulement des problèmes incroyablement complexes, plus complexes qu'aucun de ceux auxquels nous avons été confrontés auparavant dans d'autres domaines de la biologie, fin de citation, mais encore, comme le rappelle Gérald Edelman dans un livre qui a été traduit en français sous le titre « Biologie de la conscience », j'ai oublié le titre anglais, qui est très différent, comme le rappelle Edelman, qu'il s'agit de l'objet matériel le plus complexe que nous connaissions dans l'univers. Alors, bien entendu, des retombées pratiques de grande ampleur sont espérées. Là aussi, une citation, on peut à chaque fois en faire des tonnes. Nancy Andreasen, qui est la rédactrice en chef de l'American Journal of Psychiatry, qui a publié en 2001 un livre qui s'appelle Brave New Brain, laisse espérer, alors je la cite, grâce au couplage de la biologie moléculaire et de l'imagerie cérébrale, des percées à court terme sur les causes des schizophrénies, des troubles de l'humeur et des troubles anxieux. Fin de citation. Alors, évidemment, ces espoirs s'accompagnent, à l'inverse, d'inquiétudes, et c'est normal, c'est solidaire, d'inquiétudes concernant le respect de l'intégrité psychique des personnes, respect, il faut le souligner, qui fait aujourd'hui l'objet d'une attention sociale et politique majeure. Pensez simplement au thème du harcèlement moral, d'ailleurs, aujourd'hui, le Nouvel Obs est sur le harcèlement moral. Intégrité psychique, j'ai encore de la chance, Le Monde, toujours le même rapport de Blandine Barré-Kriegel, parle de ses craintes pour l'intégrité psychique et physique, d'ailleurs, des enfants. Bon. Alors, The Economist, par exemple, qui est un journal très sérieux, a consacré en 2002 un dossier au futur contrôle de l'esprit et des dérives en matière de manipulation mentale seraient à portée de main, mais... On voit bien que le journaliste a mal fait son boulot. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement des possibilités de manipulation mentale. Les différentes facettes de l'âme, mémoire, apprentissage, cognition, voire conscience tout bonnement, c'est-à-dire de ce qui est au principe de l'animation des corps, fait donc l'objet d'une véritable spéculation. Et j'emploie le mot au sens positif, parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les philosophes qui devraient faire des spéculations et pas les biologistes. C'est loin de moi l'idée de contester un tel projet, surtout au nom de ce discours à coloration théologique qui ne voit que risque de mutilation pour l'homme et crainte pour le destin de la subjectivité humaine, et surtout pas au nom d'un autre discours, l'idée qu'il y a un pouvoir d'un type nouveau, le biopouvoir, qui viendrait exercer son emprise sur l'homme, comme le croit l'anthropologie médicale foucauldienne. Alors, je vais discuter donc les arguments dans ma deuxième partie, c'est-à-dire c'est finalement une réflexion sur l'emploi des mots. On nous apprend qu'il ne faut pas mélanger les affaires du philosophe et celles du savant. Simplement, en cette matière, donc, le dit savant se fait philosophe. Par exemple, il parle de l'erreur de Descartes, il pense que l'homme est neuronal, ou qu'on peut expliquer le social à partir du cerveau. Ce sont donc des thèses philosophiques. Alors là, il y a une distinction qui est très importante à rappeler avant de critiquer certaines de ces spéculations. Je dois donc rappeler que les biologistes, par métier, doivent travailler sur les êtres humains en les abordant à partir de leur corps, donc, disons, en neurobiologie, à partir de leur cerveau, pour aller vite. L'humain, en biologie, est un être qui doit être méthodologiquement découpé selon le corps, gènes, acides aminés, enzymes, aires cérébrales, neurotransmetteurs, synapses, etc. Les neurobiologistes, par métier, encore une fois, doivent neutraliser le social. C'est une rigueur. Et faute, évidemment, d'une telle neutralisation, il n'est pas possible de tester expérimentalement des hypothèses ou d'établir des corrélations statistiques. Bon, disons que là, il faudra faire tout un développement et un travail même là-dessus avant de faire ce développement. C'est-à-dire que cette neutralisation s'opère en fabriquant un social ayant une forme qui soit utilisable par la biologie. Cette forme, je dirais, c'est un environnement qui est décomposé et rassemblé dans un ensemble qu'on appelle facteurs sociaux ou facteurs psychosociaux. C'est, si vous voulez, un social de laboratoire à la manière des modèles animaux. Et ce sont des outils qui sont inventés pour faire de la biologie. Le sociologue n'a absolument rien à en redire. Tout dépend de ce que l'on attend de ces méthodes. Le problème que je veux souligner est le suivant, c'est que nombre de spéculations biologiques sur l'esprit effectuent un pas de plus qui est, à mon avis, un pas de trop. À savoir que le fait que l'on saute de la nécessaire neutralisation méthodologique de tout ce qui n'est pas le corps, et donc du social, si vous voulez, l'aveuglement conceptuel. C'est-à-dire que l'être abordé selon le corps est bien souvent assimilé implicitement ou explicitement à l'être considéré dans sa totalité. Donc le pas de trop, à mon avis, est une erreur de type logique. Cette erreur concerne le problème des rapports entre le sujet humain et son corps, entre le tout et la partie. Problème qui est à la fois philosophique et anthropologique parce que toutes les sociétés spéculent sur cette question et la nôtre, évidemment, n'y échappe pas parce que le corps n'a nulle part d'évidence phénoménologique sur laquelle nous jetterions ensuite de la signification comme on verserait de l'eau sur une plante pour la mouiller de sens. Le corps est partout symbolisé, fait l'objet de règles sociales qui sont autant de significations sociales et donc aussi personnelles. Non pas que ces règles contraindraient les gens à faire ceci ou cela, non pas qu'elles causeraient des comportements, les règles ne causent rien, ou qu'elles décriraient des faits indubitables, mais parce qu'elles font autorité. La règle, disent fort bien les Wittgensteiniens, c'est ce qui fait autorité. Premier argument, le pont comme réponse à la complexité. Alors, comment est-ce qu'on formule les problèmes ? Dans la littérature scientifique. Donc, bien sûr, on insiste sur l'aspect complexe, l'objet le plus complexe de l'univers, etc., et sur l'extrême difficulté que son approche soulève. Mais comment est-ce qu'on entend cette notion de complexité ? Eh bien, tout simplement par les réponses qui sont apportées, il suffit de les lire. En gros, la complexité, d'abord, il y a celle de la maladie et ensuite celle du cerveau. Alors, en ce qui concerne la maladie, ce qui apparaît très nettement, je ne vous donne pas d'exemple, la maladie est dite multifactorielle, mais sur quel mode ? Sur le mode du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension ou des maladies infectieuses. Je veux dire que ces exemples que je viens de citer sont les entités de référence pour décrire la pathologie mentale, ce qui implique la mise entre parenthèses de l'adjectif mental. Tout cela est placé à un même niveau et classé dans la même espèce de phénomène. La complexité du cerveau, bon, alors évidemment, elle est liée au problème, à la question comment le cerveau produit-il de l'esprit, mémoire, cognition, etc. La tendance dominante est de dire qu'on va résoudre cette complexité, donc, en établissant un pont entre le cerveau et l'esprit. Là, je vais reciter l'article de Kandel et ses trois collègues dans CEL. Ils estiment que le problème est de savoir si nous pouvons construire un pont significatif entre les mécanismes moléculaires et les processus mentaux. Et d'ailleurs, il rajoute ensuite une biologie de la cognition, c'est-à-dire que l'esprit est réduit à la cognition. Et tout cela se fera évidemment grâce au progrès de la biologie à tous les niveaux et particulièrement de l'imagerie cérébrale. Or, qu'est-ce que montre l'imagerie cérébrale ? Eh bien, ce sont des activités métaboliques locales qui sont très difficiles par ailleurs à interpréter. Le problème conceptuel que pose la biologie qui fait des complexes, bien sûr, mécanismes cérébraux, le sujet de la personne, l'acteur des opérations mentales, celui qui agit en dernière instance, est la non-interrogation sur la différence entre deux espèces de phénomènes. Pour montrer cette non-distinction entre les deux espèces de phénomènes, je vais prendre une phrase de François Jacob, bien qu'il ne soit pas neurobiologiste, parce que je crois que ça pose un problème de fond et qu'il s'agit d'une vision qui est finalement très répandue en neurobiologie. Il conclut son dernier livre sur cette question, je crois que c'est le dernier paragraphe. « Nous sommes, dit-il, un redoutable mélange d'acides nucléiques et de souvenirs ». De désirs et de protéines. Non, mais c'est vrai que nous sommes un mélange de ça. Il n'y a pas à rire. Hein. Le siècle qui se termine s'est beaucoup occupé d'acides nucléiques et de protéines. Le suivant va se consacrer sur les souvenirs et les désirs. Hein. C'est la même chose, le siècle du gène, le siècle de l'esprit. Hein. Ensuite, saura-t-il résoudre de telles questions ? De là, ma question. Est-on composé au même sens, dans le même emploi, au même niveau hiérarchique, de protéines et de désirs ? Est-ce que ces modes de formulation correspondent à la nature des phénomènes que l'on veut étudier et sur lesquels on veut agir ? Une distinction, là encore introduite par les Wittgensteiniens, entre le domaine des causes et des mécanismes et celui des raisons et des significations peut permettre à distinguer et à hiérarchiser. Les acides nucléiques et les protéines, eh bien, sont sur le terrain des causes et des mécanismes, même si ces mécanismes ne sont pas, comment dire, mécaniques, probabilistes, etc., peu importe. Les désirs et les souvenirs sont sur le terrain des raisons et des significations. En effet, le désir est normé par le langage. Il implique, bon, là je dis les choses vraiment plus que caricaturalement, il implique que des gens parlent autour de vous depuis votre naissance et ils parlent de telle ou telle manière dans telle société en fonction de telle normativité sociale et de telle autre manière dans telle autre société en fonction d'une autre normativité sociale. Bon, je viens de caricaturer l'anthropologie. Si on ne hiérarchise pas ces deux espèces, la seule solution est effectivement l'adoption d'un pont, en l'occurrence entre les protéines et le désir. Je dois préciser quand même que l'enjeu n'est pas tellement théorique pour la biologie, il est aussi pratique parce que si ces questions-là ne sont pas un problème de pont, eh bien, il ne sera jamais construit. Je dois préciser que cette non-distinction des niveaux est assez courante et je renverrai à la critique que fait Henri Atlan de la non-prise en compte des niveaux d'organisation bien souvent en biologie. Donc, cette non-distinction est courante, mais je dirais que souvent elle n'est même pas perçue comme un problème, elle n'est pas vue. Les biologistes et les psychiatres qui ne distinguent pas les niveaux se réfèrent implicitement ou explicitement à un critère du mental qui est l'intériorité, et cette intériorité se loge dans le cerveau. Alors, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants ici, je me permets de vous renvoyer à un ouvrage que j'ai donné en bibliographie, qui est « Le mythe de l'intériorité » de Jacques Bouvresse, précisément page 649-681, et particulièrement la page 678. Bon, donc cette intériorité se loge dans le cerveau. C'est là une affirmation qui est très contestable sur un plan logique, et pire, elle n'est pas indispensable sur un plan purement biologique. Jacques Bouvresse, donc dans cet ouvrage, qui date de 1974, se demande, si, je le cite, « si l'on pense pouvoir résoudre le problème psychophysique en substituant à l'âme éthérée et insaisissable du philosophe l'âme matérielle et tangible du savant, à savoir le cerveau. » Évidemment, le titre de mon exposé était emprunté à Jacques Bouvresse. Eh bien, c'est ce que prétendent faire des psychiatres biologistes comme Eric Kandel. Bon, je prends Kandel parce que j'ai pas mal travaillé ses textes, mais on aurait pu en prendre d'autres. Et puis bon, c'est un chercheur important qui a fait des découvertes importantes. Encore une fois, je ne m'intéresse pas à ces découvertes, je m'intéresse à ces spéculations. Critiquant la distinction entre troubles neurologiques et troubles fonctionnels, il estime que, je cite, « la base du nouveau cadre conceptuel de travail pour la psychiatrie est que tous les processus mentaux sont biologiques et qu'ainsi, toute altération dans ces processus est nécessairement organique. » C'est bon, le parallélisme psychophysique traditionnel, c'est-à-dire à tout événement motal correspond un événement cérébral. Donc, ce vieux chaudron du parallélisme psychophysique est simplement rempli par les ingrédients de la biologie moléculaire. De plus, il y a un autre problème, c'est que l'existence d'altérations organiques ne nous fait pas avancer. Pourquoi ? Dans la mesure où nous possédons un corps, n'est-ce pas, il est normal que de multiples relais biologiques, neurotransmetteurs, synapses, aires cérébrales, etc., nous fassent ressentir ce que nous ressentons. L'essentiel, c'est quoi ? Eh bien, c'est de savoir où l'on place ces relais de type neurobiologique, quel que soit leur niveau, cellulaire, moléculaire, où l'on place ces relais dans la chaîne des causes et des raisons qui conduisent à une pathologie mentale, un trouble mental, un état de mal-être, je ne sais pas. Deuxième élément que je voulais discuter, c'est la singularité biologique de chaque être humain et ses rapports avec la singularité du même être humain considéré, enfin, tout court. Le neurologue Oliver Sacks estimait, c'est un article que la revue Esprit avait traduit il y a une dizaine d'années, qu'il devient possible aujourd'hui de formuler des hypothèses et une théorie neurobiologique de l'individu qui permet d'expliquer comment un être humain devient lui-même. Et il se réfère à Gerald Edelman. Le pas de trop, pour moi, est dans la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire qui permet d'expliquer comment un être humain devient lui-même. L'espèce humaine est certes biologiquement équipée pour une différenciation infinie des individus, à l'inverse de la mouche par exemple. Ainsi, chaque cerveau est spécifique à chaque être humain, y compris le cerveau des jumeaux monozygotes. Mais est-ce que l'identité biologique est la même chose que l'identité d'une personne dans sa totalité ? Qu'est-ce que la singularité biologique du soi, comme on dit en immunologie, a quel rapport avec la singularité de soi, c'est-à-dire de la personne considérée dans sa totalité ? Je crois que nous n'avons pas du tout besoin de la biologie pour savoir comment une personne devient elle-même. On a déjà tous les moyens de le savoir, ou aucun moyen si l'on veut. Nous avons besoin de la biologie pour autre chose. Je crois que il faut maintenir une distinction entre l'individuation au sein de l'espèce, soit ce qu'on appelle l'identité personnelle, le fait qu'une chose reste elle-même, et l'individualisation, c'est-à-dire le sens qu'on accorde à cette identité. Or, ce sens ne peut pas résider dans le cerveau, qui ne connaît que des mécanismes, mais dans les institutions et les normes, c'est-à-dire le langage. L'usage d'une perspective exclusivement naturaliste consiste soit à mettre sur le même plan l'être considéré à partir de son corps, ici le cerveau, et l'être considéré comme un tout, soit à faire du second la conséquence du premier, c'est-à-dire faire du tout la conséquence de la partie, le cerveau. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui n'est pas le cerveau ne compte pas vraiment, même si ça existe. La confusion de l'individuation biologique et de l'individualisation sociale conduit à penser que le cerveau est à la fois le sujet qui dirige la personne et la personne tout entière. Autrement dit, on fait bien du cerveau une âme matérielle. Pourtant, disais-je tout à l'heure, localiser la pensée dans le cerveau n'est pas nécessaire en biologie. Simplement, il me semble, enfin je ne connais pas encore tout le matériau parce que c'est très dur et long de s'initier à la biologie, à tous les courants, quand on n'a pas de formation. Mais je dirais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut chercher cette biologie hors des neurosciences psychiatriques. Et je pense en particulier à des gens qui font de la neurobiologie du développement, comme Antoine Danchin et Alain Prochian. Je cite Alain Prochian. Il dit « Nous définissons la pensée dans un sens purement biologique comme le rapport adaptatif qui lie l'individu et l'espèce à leur milieu. La pensée, précise-t-il, n'a donc pas de place. » Pas d'organe privilégié, pas même le cerveau, même si la structure de cet organe participe de façon privilégiée au rapport entre l'individu et son milieu. Fin de citation. Pour conclure, en quelques minutes, les spéculations dont je viens d'esquisser simplement l'analyse ont des enjeux pratiques. Ils fournissent des références scientifiques permettant d'envisager l'intégration de la psychiatrie dans la neurologie. Autrement dit, la fin de la distinction entre, disons, des dérèglements de type neurologique et des troubles qu'on appelle encore fonctionnels. Il y a aujourd'hui une tendance très forte dans les publications scientifiques de renom à prôner une telle intégration. On va même jusqu'à affirmer, par exemple, c'est un article de l'American Journal of Psychiatry de mai 2002, parce que je voulais faire très récent, alors évidemment j'ai fait un lapsus, et qui affirme qu'il est de plus en plus difficile de distinguer scientifiquement entre les disciplines de la neurologie et de la psychiatrie. Dans un article des Archives of General Psychiatry de 1997, on nous dit que la médecine devrait à nouveau produire un type original de médecin qui devrait être formé à un usage optimal des récentes avancées en neurosciences, neuropharmacologie, dans la connaissance du métabolisme et dans l'imagerie fonctionnelle. Bon, je pourrais multiplier les citations. Alors, d'abord, une petite interrogation qui serait de la sociologie des professions. Ce n'est pas un enjeu de sociologie des professions, ce n'est pas le principal, mais quand même. Il est possible que cette neurologisation de la psychiatrie, sous l'aile des neurosciences cliniques ou psychiatriques, soit un moyen pour les psychiatres de retrouver une place sociale et une identité professionnelle entre le monde des psychothérapeutes et des entrepreneurs de l'équilibre personnel, renouveau religieux, groupes spiritualistes, etc., qui drainent une importante clientèle, d'une part, et celui des médecins généralistes, d'autre part, qui disposent aujourd'hui de molécules très maniables et pratiquent 80% des actes psychiatriques. Parce que la psychiatrie, et là je parle de la psychiatrie en tant que discipline universitaire, est tenue de répondre finalement avec les moyens du bord à la demande massive et multiforme aujourd'hui de santé mentale et d'amélioration de soi. Or, là il faudrait faire un long développement encore, la psychiatrie est travaillée par une tension récurrente entre une conception de l'homme comme être corporel et une conception adverse de l'homme comme être de langage. D'où vient cette tension récurrente? Eh bien, elle résulte tout simplement, des difficultés à objectiver ce qui est vécu subjectivement par le sujet, problème qui ne se pose pas en cancérologie, en cardiologie, etc. Cette situation particulière fait que la psychiatrie est à la fois médecine comme une autre et autre que la médecine. Or, cela a tendance, et on le voit bien quand on fréquente des institutions comme l'INSERM, par exemple, que cela fragilise la légitimité scientifique de cette profession, qui est alors tentée, pour rester une médecine comme une autre, par la fuite en avant dans les outils, sans tenir compte de la nature des phénomènes sur lesquels elle agit. Au niveau pratique, j'ai quelques questions à poser. Par exemple, quel mécanisme physiopathologique, quel marqueur biologique d'une quelconque affection peuvent-ils être portés aujourd'hui au crédit des neurosciences psychiatriques? Les résultats concernent quelques syndromes à caractère biologique, je pense à la phénylcétonurie ou au syndrome de l'X fragile dans l'autisme, et très certainement, la recherche neurobiologique repérera bien plus d'aspects neurologiques et neuropathologiques dans les maladies mentales, dans les schizophrénies par exemple, autrement dit des aspects corporels, n'est-ce pas, dans les maladies mentales. Mais ce que je veux pointer, c'est que dès que l'on repère de tels syndromes, eh bien, ils sont sortis de la pathologie mentale, car ils ne sont plus mentaux, même s'ils ont des conséquences mentales. Autrement dit, on ne met pas fin à la division entre neurologie et psychiatrie d'une part, et on n'arrive pas à se débarrasser de l'adjectif mental qui garde sa nécessité. Tout le problème, c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire ou c'est optionnel, l'adjectif mental. Quand des biologistes, et non la biologie, prétendent prouver que tout vient de l'intérieur, y compris le social, ils substituent à l'intériorité métaphysique une intériorité biologique. Ils pensent comme les phénoménologues, en plaçant une seconde personne derrière la personne réelle, le mécanisme cérébral se substituant, disons, au sujet pour aller très vite. En naturalisant entièrement l'esprit, en le rabattant sur le seul terrain des causes et des mécanismes, il succombe au mythe de l'intériorité qui me semble être particulièrement répandu dans les sociétés individualistes. Cette fétichisation du cerveau est une neuromythologie parce que la nature sociale de l'homme est perdue de vue. Mais je veux tout de suite préciser que, là encore, ce n'est pas du tout spécifique de la biologie, parce qu'il y a autant de sociomythologie, c'est-à-dire dans ma discipline, je dirais, que de neuromythologie, pour aller vite. Ainsi, par exemple, traditionnellement, dans la plupart des courants sociologiques, on oppose l'individu à la société. C'est le même type de raisonnement dualiste, c'est-à-dire qu'on pose l'individu comme une espèce d'être naturel, et ensuite seulement, on dépose sur lui une sorte de peau sociale qu'on va appeler la société. Bon. Alors, cette perte de vue du social, en sociologie ou en biologie, mais je dirais que c'est plus embêtant en sociologie qu'en biologie, conduit à se poser une simple question logique, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus pourquoi l'une des caractéristiques naturelles majeures de l'espèce humaine consiste à vivre en société, comme si ce n'était qu'une question d'option, comme si les nécessités de l'espèce n'étaient pas aussi sociales. Si on n'a jamais vu un sujet sans corps, on ne connaît l'homme hors société que comme anomalie, l'enfant sauvage par exemple. Nous sommes donc équipés biologiquement pour vivre comme des êtres sociaux. Toute la difficulté dans ces spéculations est de sortir du mythe de l'intériorité pour donner toute sa place à la nature à la fois biologique et sociale de l'être humain. Le fait que l'homme ne vive qu'en société, qu'il soit un être qui a accès au monde que par le langage, est-ce que cela n'a aucune nécessité? Est-ce que cela, c'est de l'en plus? Identifier l'animal humain à son corps, c'est, je crois, ne pas comprendre que les rapports entre le corps et la personne sont réglés socialement, autrement dit que le corps biologique, et avec tous ses morceaux, si vous voulez, biologique ou non, est englobé dans la normativité sociale. Je vais prendre un petit exemple pour terminer, enfin un exemple fictif. Supposez que l'on découvre un jour les causes et les mécanismes de la culpabilité, de la honte, de l'angoisse. N'aurions-nous pour autant plus aucune raison sociale et morale de nous sentir coupables, honteux, angoissés? Ces sentiments jouent un rôle à la fois logique et anthropologique qui sont aussi indispensables à l'être humain pour vivre que son corps. La biologie et le social sont deux moitiés inégales et complémentaires dont il me paraît conceptuellement impossible de vouloir faire la grande synthèse, de même qu'il est conceptuellement impossible, selon le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg que nous avons tous appris à l'école, de connaître à la fois la position et la vitesse d'un électron, quels que soient les futurs progrès de la physique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème qui est de nature épistémique, c'est-à-dire un progrès des connaissances va nous permettre d'avoir ces deux choses en même temps, c'est un problème qui est ontologique, c'est-à-dire ça tient à la nature du phénomène étudié. Tout cela, donc, je précise pour terminer, j'espère avoir été bien compris là-dessus, je ne crois pas une seconde qu'il ne faut pas faire de la biologie de l'esprit ou de la biologie du cerveau, ou qu'il ne faut pas faire de la psychologie cognitive, mais ce qu'il faut savoir, c'est où on les place, comment on les place. Voilà, je vous remercie.
Bien, un grand merci à Alain Ehrenberg pour cette présentation et ses réflexions, à la fois très denses et je crois aussi très claires, qui, j'en suis sûr, ne vont pas susciter l'indifférence, mais au contraire, toute une série de questions ou de réactions. Donc, la parole est à vous.
Merci. Vous avez cité plusieurs fois Wittgenstein.
Pardon,
Vous avez cité plusieurs fois Wittgenstein. On peut peut-être appeler au secours Gödel. On peut peut-être aussi parler un peu de Gödel, un autre logicien. Et Gödel pensait qu'au sein d'un système, on ne peut pas prouver la vérité d'un énoncé dans ce même système. Est-ce que, de ce point de vue, ça ne rendrait pas impossible que l'homme connaisse son propre fonctionnement? Et apparemment, on y arrive quand même, malgré l'interdiction de Gödel. Est-ce que, enfin, si c'est votre avis, est-ce que vous pourriez nous ébaucher, disons, les contours, les détours par lesquels on arrive quand même à prouver l'improuvable, entre guillemets.
Je ne vois pas pourquoi c'est improuvable.
Enfin, disons que, d'après la logique, l'homme s'étudiant lui-même ne pourrait en principe ne pas prouver aucune vérité sur lui-même.
Euh... Enfin, moi, je pense. Enfin,
ça, c'est, bon, c'est Gödelien.
Oui, 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 j'ai bien compris que vous vous référiez à Gödel. Je pense que c'est pas simplement un problème de, c'est pas un problème de logique, c'est un problème qui est plutôt pour moi de nature sociale. C'est-à-dire que je ne vois pas le moindre argument s'opposant à l'idée d'une connaissance de l'homme par lui-même. C'est, disons, pour moi, c'est l'anthropologie pragmatique, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie pragmatique ? Eh bien, c'est l'étude de la façon dont l'homme s'institue lui-même, n'est-ce pas ? Donc, de quoi on parle là ? Eh bien, là, on parle, par exemple, de sciences sociales, d'anthropologie, etc. Ces disciplines-là peuvent nous permettre aussi de comprendre comment, enfin, qu'est-ce que l'homme en contexte ? C'est-à-dire, ce que nous arrivons à apprendre par ce genre de discipline, par ailleurs, il faudrait dire pas simplement les disciplines, parce qu'au sein de ces disciplines, il y a des désaccords profonds, comme entre biologistes, évidemment, sur la question de l'esprit, ne serait-ce que sur la nature du social. Nous ne sommes pas d'accord entre nous, sociologues, anthropologues. Certains pensent, par exemple, dans une perspective, ce serait, je pense, plutôt durkheimienne, que le social est une contrainte. D'autres pensent, dans une perspective qui serait de Marcel Mauss, celle de Marcel Mauss ou de Louis Dumont, et qui serait aussi la mienne, que le social se pense plutôt du côté du sens et de la symbolisation. Donc, ce que l'on peut comprendre par ces disciplines, c'est l'homme dans son contexte. On n'a pas besoin de rentrer dans des, disons, dans des sortes de paradoxes logiques, peut-être, comme celui que vous exposez. Parce qu'il n'est pas sûr que ça soit que nous devions situer cette question sur un niveau qui soit purement logique, qui est, me semble-t-il, celui que à partir duquel vous posez votre question.
Voilà.
Non, ça, c'est pas mon problème. Non. Ce que j'ai voulu dire comme problème, c'est le problème de la psychiatrie, n'est-ce pas, et, bon, disons, des disciplines ou de la psychologie, c'est le problème des sciences cliniques, c'est-à-dire la difficulté à objectiver ce qui est vécu subjectivement par le sujet, par le patient. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent dans ces disciplines, et d'une certaine manière, la maladie mentale ou le trouble mental est une maladie de soi-même, si je puis dire. Bien entendu, dans un cancer, la personne est en jeu dans sa totalité aussi. Mais nous n'avons pas affaire, à mon avis, aux mêmes espèces de phénomènes que celui dont on parle quand on parle de pathologie mentale. Par exemple, les dimensions psychologiques et de souffrance psychique dans le cancer sont évidemment considérables, mais du point de vue de la pathologie, c'est un aspect second, alors que dans la pathologie mentale, c'est l'entièreté du problème. D'où toute une série de solutions qui ont été trouvées par la psychiatrie. Je pense que les neurosciences sont les disciplines que ça regroupe, neurophysiologie, neuroanatomie, imagerie cérébrale, biologie moléculaire, génétique quantitative, tout ce que vous voulez, sont des moyens, justement, de constituer des entités de type objectif. Vous avez d'autres techniques, les techniques psychométriques, n'est-ce pas, de mesure en santé mentale, échelle, etc.
Le micro,
oui. Bonjour.
Est-ce que je peux prendre la parole? Il faut d'abord passer le micro.
Oui.
D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque vous nous prévenez contre la non-distinction des niveaux qui est courante dans certaines directions de la neuroscience, est-ce que votre position pourrait être caractérisée comme un dualisme épistémologique? Ça veut dire, vous ne dites pas que la pensée est une autre réalité que le cerveau, mais vous dites que la distinction fondamentale se situe entre le domaine qui est descriptible en termes de causalité et le domaine qui est descriptible en termes de motivation et signification. Alors, c'est pour cela qu'il est indispensable de parler en termes de la psychologie du sens commun, en termes de désir, de croyance, de culpabilité, dans le domaine de la sociologie ou dans le domaine même de la psychiatrie. Et c'est pour cela que, selon vous, si j'ai bien compris, la psychiatrie n'est pas réductible de façon exhaustive, complète, à la neurobiologie. Mais ce qui m'intéresse, c'est... donc, vous n'êtes pas d'accord pour dire que... Non. Votre dualisme, si vous défendez la position dualiste, n'est pas un dualisme ontologique. Vous ne dites pas que l'esprit est un autre type de réalité que le cerveau ou que la base physiologique de la pensée. C'est ma question.
Non, je ne crois pas que je dis ça. Non, que c'est une autre réalité ou que c'est la même réalité. Enfin, à mon avis, c'est pour moi, en tant que sociologue ou anthropologue travaillant sur un sujet qui s'appelle la notion d'individu ou l'individualisme contemporain, c'est pas ça le problème. Alors, dualisme épistémologique, je ne sais pas si c'est un dualisme épistémologique. Enfin, si c'est au sens, disons, que l'abord méthodologique, enfin, l'abord épistémologique des problèmes doit tenir compte de la nature du problème, à ce moment-là, oui, on peut dire que c'est une sorte de dualisme épistémologique, quoique moi, je ne me reconnaisse pas vraiment dans cette étiquette. De toute façon, je ne suis pas philosophe du tout. En ce sens-là, oui, on peut dire qu'il y a un dualisme, parce que ce n'est pas le même genre de phénomène, et je ne crois pas qu'on puisse arriver à une grande synthèse. Peut-être à tort, ici, je pense qu'il y a plein de gens qui sont tout à fait en désaccord, bien entendu, avec moi, puisque ce genre de choses ne se démontrera pas sur un terrain expérimental ou de loi quelconque. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature sociale du phénomène, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le problème de la nécessité. Hein. Et ce que l'on voit, c'est... Enfin, bien entendu, ça ne peut pas se voir ici parce que je suis obligé de faire sur ce genre de sujet un exposé qui est plutôt d'épistémologie ou de philosophie des sciences. Mais en réalité, mon problème n'est pas d'épistémologie de philosophie des sciences. Il est d'anthropologie du sujet contemporain. Mais là, comme je passe par la biologie et les spéculations biologiques, j'essaye de faire un petit exercice de philosophie des sciences. Donc le problème, c'est plutôt aujourd'hui une des tendances qu'on voit bien dans la société contemporaine, dans toutes sortes de domaines, c'est la perte de vue de l'idée, au fond, la perte de vue de l'idée de société, c'est-à-dire l'idée de société comme nécessité, ou de l'idée de règles sociales, par exemple. Hein. Et autrement dit, on est dans une tendance au niveau des, disons, idéologique, hein, pour aller vite, de voir cela comme quelque chose d'optionnel. Et ce que je regarde du côté de la biologie, me semble-t-il, dans un domaine totalement différent, avec des systèmes de contraintes particuliers, c'est quelque chose de, disons, de similaire. Et ce que j'ai voulu mettre ici un peu en relief, c'est les illogismes dans la manière de poser les problèmes. Donc, illogismes qui doivent sans doute me ramener à un dualisme, au dualisme épistémologique que vous avez soulevé tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Oui, c'est à vous.
Plus qu'une question, c'est peut-être une remarque dans le prolongement de votre exposé. Je suis psychiatre et psychanalyste, je ne suis pas je ne fais pas de l'épistémologie, mais peut-être que la question que vous posez, c'est le fait que la psychiatrie est une discipline qui a à la fois à faire avec la causalité scientifique et à la fois à faire avec, bon, vous avez cité Wittgenstein, ce qui est, je dirais, du côté de praxis ou des raisons, enfin ce que Wittgenstein appelle les raisons. Et que dans le cas, à l'inverse, d'autres disciplines médicales, par exemple, qui sont beaucoup plus consensuelles. Et la question qui se pose par rapport à ça, c'est peut-être une chance, c'est de voir comment ces différents niveaux et différents types d'approches peuvent coexister dans une même discipline. Et en fait, si on regarde l'histoire de la psychiatrie, il y a toujours eu des mouvements de balancier. Il y a eu le tout psychanalytique à un moment, ensuite on est passé au tout biologique.
Psychanalytique, il faudrait voir où.
Oui, enfin, en tout cas, il y a eu.
Je connais l'histoire de la psychiatrie française. Je n'ai jamais vu de tout psychanalytique.
Il y a eu un moment quand même très fortement lié à ça.
Il y a eu un moment où la psychanalyse a joué un rôle important dans la psychiatrie française.
Oui.
Et aujourd'hui, elle est totalement marginalisée. Mais il n'y a jamais eu de tout psychanalytique. Et j'aimerais bien qu'on vérifie sur une histoire de la psychanalyse et de la psychiatrie aux États-Unis qu'il y a vraiment eu un tout
psychanalytique. Je parle de la psychiatrie française, en tout cas, autour des années 60, où quand même cet élément-là était extrêmement important. Et de fait, je crois qu'il y a une question, c'est simplement une question que je vous adresse, c'est effectivement, par rapport à cette discipline où ces deux niveaux interviennent, comment on peut créer une discipline où coexistent des éléments aussi disparates du point de vue méthodologique ?
Ah, mais ça c'est le, comment dire, c'est tout le, si vous voulez, quand on parle de psychologie, de psychiatrie, etc., on est justement dans ce terrain qui est entre science de l'esprit, science naturelle, donc c'est un débat récurrent. Mais je vais prendre un tout petit exemple, peut-être que à ce moment-là, au fond, le mettre sur le plan pratique de ce qu'a fait la psychiatrie, avec la pharmacologie, avec la chimie et avec la psychanalyse. Et je vais pas en prendre, puisque nous sommes à Lyon, des psychiatres lyonnais. Il y avait tout un groupe à Lyon, la fin des années 50, début des années 60, avec Jacques Guyotat, par exemple, Révol, Lambert, etc., qui ont fait des travaux à partir, puisque le groupe, les années 50, donc, c'est l'invention des neuroleptiques, des antidépresseurs, et puis aussi des tranquillisants. Mais bon, les tranquillisants ne sont pas... Il faut les mettre de côté. Bon, alors, il y a des travaux, et donc, on se pose plein de questions sur... puisque pour la première fois dans l'histoire, on dispose de moyens chimiques d'agir sur le mal. Donc, ça pose en même temps plein de problèmes. Mais on n'est pas du tout dans une époque, par exemple, où on est comme aujourd'hui, où ça a l'air d'être la tendance, c'est-à-dire ou psychothérapie ou chimiothérapie. La psychiatrie de l'époque, il y a plein de réflexions comme ça, les psychiatres se disent, justement, ce problème de légitimité que j'ai évoqué tout à l'heure ne se pose pas, parce que le raisonnement est tout à fait autre. Le raisonnement, c'est que la complexité de l'humain est telle, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons, nous psychiatres, Henri Eldy et d'autres, nous disposons aujourd'hui de moyens extrêmement divers pour lutter contre les affections de l'esprit, c'est-à-dire nous disposons d'instruments psychothérapeutiques, d'instruments chimiques, etc. Donc toute la réflexion, c'est comment combiner tout cela. Et par exemple, il y a une réflexion très intéressante qui s'est faite dans le groupe lyonnais, en particulier, je pense, pour les névroses obsessionnelles graves qu'on appelle aujourd'hui les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Hein, donc, par exemple, vous vérifiez 300 fois que votre porte, votre gaz est fermé avant de partir, c'est extrêmement invalidant et pénible. Eh bien, la façon, je ne donne simplement pas tout le raisonnement, mais c'est juste pour donner une idée que les problèmes ne se posent pas en théorie, mais ils se posent de façon pratique. Eh bien, le groupe de Guyotat disait, bon, dans le cas des névroses obsessionnelles graves, ce qu'il faut faire, c'est donner des antidépresseurs pour réduire l'intensité des symptômes et permettre au sujet d'avoir un certain accès à la parole et, à partir de là, de pouvoir construire une relation thérapeutique. C'était d'ailleurs la même chose avec les neuroleptiques, c'est-à-dire les neuroleptiques, en réduisant l'angoisse extrême du psychotique, eh bien, permet d'instaurer un rapport de communication et donc permet d'engager une psychothérapie. Donc, à votre question, c'est plutôt une réponse de ce type que je donnerais, parce que de toute façon, c'est un système de contraintes contradictoires d'une certaine manière dans laquelle on se trouve quand on fait ce genre de métier.
Bien, merci à tous. Nous sommes obligés pour l'instant de conclure en espérant qu'à la fin de la demi-journée, il restera un peu de temps pour reprendre toute une série de questions qui traverse les différentes interventions et les réactions. Merci encore à Alain Renberg et aux différents intervenants.